Fais-nous voir le jour de ton salut.
Alléluia. 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple l'abordèrent pour lui demander « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une seule question. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons « des hommes », nous devons redouter à foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu.
En à toi, Seigneur Jésus.
Ça me fait rire. C'est quand même drôle. Je suis quand même un renard. C'est vrai. Ah, si un bon enfant, tu es malhonnête, tu es pas loyal, tu es machin. Ben non, moi je ne dis pas non plus. Je suis sûr que. Il a dû éclater de rire, je suis sûr. Non. C'est un bon travail. C'est ridicule leur histoire. Hein. Ils cherchent la vérité, puis. Et puis alors ils disent, alors, c'est quand même incroyable leur histoire, ils sont tordus comme tout. Là. Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons, le baptême de Jean vient du ciel, alors celui-là, il va nous dire, ben, pourquoi donc vous n'avez pas cru à sa parole. Et si nous disons, des hommes, nous devons redouter la foule. Car tous tiennent pour Jean. Et puis alors, attends. Alors, évidemment, ils sont tout à fait d'accord que Jean-Baptiste est un prophète. Ils sont d'accord. On sait très bien qu'ils sont d'accord que Jean-Baptiste est un prophète, les pharisiens. Personne à Jérusalem n'a empêché Jean-Baptiste de faire le baptême. Or, c'est un rite, le baptême. C'est un rite que Jean-Baptiste a inventé. Et tout Jérusalem venait à Jean-Baptiste. Comme disent les synoptiques. Tous. On n'a jamais vu un pharisien empêcher. Ou attaquer Jean-Baptiste en disant pourquoi tu fais ce baptême ? Est-ce que tu inventes une nouvelle cérémonie religieuse ? Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Non, ils étaient parfaitement d'accord, il n'y avait pas de problème. C'est exactement comme aujourd'hui dans l'église chrétienne, personne ne va critiquer qu'à Lourdes on se plonge dans la piscine. C'est bizarre ce rite-là de Lourdes. Bizarre ce truc-là. Enfin, tu en fais la queue pendant 5 heures, tu plonges la cuisine, tu reviens. C'est quand on connaît le clergé, etc., c'est invraisemblable qu'il n'y ait pas un seul qui dit. C'est vrai. Invraisemblable. Chez les intégristes aussi, c'est pareil. On reçoit des lettres. Des gens qui sont très traditionnels, très intégristes, qu'est-ce que c'est que ce truc de communauté nouvelle, là, où on impose les mains, je sais pas quoi, baptême du Saint-Esprit, alors, et la confirmation, qu'est-ce que c'est que cette
histoire, ouais.
Mais alors, ça ne viendrait pas à l'idée de dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'eau, comme si on n'avait pas déjà reçu de baptême, on a besoin de se faire baptiser à nouveau dans la purification d'une eau, je ne sais pas quoi. Mais non, non, ça ne vient à l'idée de personne. Et là, c'est pareil. Pour Jean-Baptiste, les pharisiens, d'accord, c'est pas de problème, c'est aucun problème. Ben, c'est vrai. Donc, ils sont. Ils connaissent les dates, hein. Ils connaissent les dates. Les deux saints Matthieu, là, ils connaissent les dates du Messie. Et ils l'ont dit à Hérode. C'est ça, c'est le. Ils connaissent les dates. Ils savent que c'est. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et donc, ils reconnaissent que si Jean-Baptiste, hier, dans les rois de Dieu, avait répondu Élie, c'est moi. Ah, tout de suite, il sortit. Pas de problème. Il a dit non. C'est drôlement embêté. Il doit être complètement désemparé, ces pauvres pharisiens. Oui, c'est vrai. Et si nous disons le baptême vient des hommes, nous devons redouter la foule. Ah oui, il y a aussi la peur de la foule, hein, c'est vrai, à Lourdes. Tellement mis aux gens, ouais, qui vont parler. On va pas se mettre mal quand même avec nos principaux paroissiens. C'est vrai, très moderne, très moderne. C'est sûr. C'est... Alors, on est prêtre, on est scribe, on est théologien. Pour qui ? On est pour Dieu ou pour nous, pour garder le pouvoir ? C'est ça le drame. On est prêtre, on est consacré à Dieu, pour Dieu. C'est pour Dieu seulement. Alors comme ils sont dans le mensonge, ils n'ont pas droit à la vérité. Il faut toujours se rappeler ça. Tu ne mentiras pas. Et bien, quand tu dis tu ne mentiras pas, ça veut dire que tu ne donnes pas la vérité à quelqu'un qui y a droit. Mais si quelqu'un est dans le mensonge, eh bien il n'a pas droit à la vérité. Tu lui mens, ce n'est pas un mensonge. Parce que si tu mets la vérité dans un esprit mensonger, tu fais un mensonge. Alors Jésus est extraordinairement. Alors il les a drôlement croisés. Ça, je trouve ça génial. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Moi non plus. Je ne vous dirai pas. Moi non plus, je ne vous dirai pas. Par quelle autorité je fais cela ? C'est aussi surprenant que l'histoire de Balaam qu'on a lu dans la première lecture, le brave Balaam, qui est une espèce de prophète extraordinaire, des Amalécites, je crois, je ne sais plus lequel. Et puis, il se met sur son âne, et puis, pour aller prophétiser contre le peuple de Dieu. Et puis d'un seul coup, l'âne de Balaam, l'ânesse de Balaam, le chemin, on dit, allez, avance. Elle s'arrête, elle ne veut pas avancer. Il y a un ange qui apparaît, mais Balaam est un prophète qui va annoncer des choses dont il sait parfaitement qu'elles sont fausses au peuple. Alors il ne voit pas l'ange Gabriel, on n'a pas droit à la vérité lorsqu'on est dans la déloyauté. Mais l'année, elle le voit, l'ange. Alors l'ange dit, stop. Et quand on est dans l'hypocrisie, un petit peu dans l'orgueil, hein, quand on est un peu tordu, si vous voulez, quand pour des raisons religieuses, ou spirituelles, ou communautaires, ou ecclésiastiques, et une aigreur qui s'est placée, hein, ça arrive souvent dans les communautés ou les fraternités, mais même peut-être comme dans les nôtres, hein, c'est possible, faire très attention, parce qu'une ânesse comprend mieux les choses de la foi que nous si on est dans cet état-là. Un âne. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, moi j'ai la spiritualité d'un âne, pas du tout inférieure. C'est pour ça que j'aime le dire souvent. À ce moment-là, ça veut dire que tu as la spiritualité d'un bouse de vache. Inférieure. La spiritualité de la bête. Inférieure à la spiritualité de l'âne. Et alors, il sort l'ânesse de Balaam. Il faut se rappeler toujours cette expression qui, si vous ne la connaissez pas, il faut la connaître, l'ânesse de Balaam. L'ânesse de Balaam. Mais il la frappe à mort. Ça avance, quoi. Et du coup, l'ânesse de Balaam prophétise. Une voix humaine sort de l'ânesse de Balaam. Et lui dit, si je m'arrête, c'est parce qu'il y a un ange. Et il te demande de ne pas prophétiser l'erreur, mais de prophétiser la vérité. Le peuple d'Israël vaincra. Alors du coup, Balaam est obligé de voir le miracle, de dire, et du coup il va prophétiser en disant, c'est le peuple de Dieu qui a la victoire, car Dieu est l'éternel. C'est extraordinaire cette histoire d'ânesse de Balaam. Ça nous encourage un tout petit peu parce que on dit, oh moi je ne suis pas un prophète, on dit, mais pardon. Si une ânesse a pu prophétiser, c'est que je veux être prophète. Ou alors si un jour, il t'arrive que Dieu passe à travers toi, t'as pas à te gonfler, puisqu'il passait à travers une ânesse. Il dit, vraiment, c'est vraiment mon Dieu qui me fait dire ça. Oh, orgueilleux, je dis, oh bon non, je ne suis pas par orgueil. Hein? Je suis à peu près au même niveau que l'ânesse de Balaam. Vous voyez, c'est ce petit truc. Les pharisiens, quand ils s'adressent à Jésus, ils sont aussi stupides que les ânes. Plus stupides que les ânes. Alors c'est pour ça que je dis, bon, bah, c'est pas pour vous. Hein, parce que je ne suis pas venu pour les ânes, je suis venu pour les pécheurs. Donc vous n'avez pas le droit de savoir pour quelle autorité je fais ça. Et je trouve ça absolument génial comme réponse. Voilà. Alors pour ça, vous remarquerez que nous nous préparons à Noël et que les textes qui vont être donnés sont dans cette semaine tous portés sur Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Saint Jean-Baptiste, qui est-il? Saint Jean-Baptiste, le précurseur, c'est l'aurore du Christ. Pour se préparer à Noël, pour se préparer au retour du Christ, il faut comprendre cette espèce de visage de Jean-Baptiste. Il y a souvent, vous voyez, on se demande qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour me rapprocher plus vite de Dieu. Je crois qu'il faut épouser le rythme de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu dans son peuple. L'Esprit Saint souffle dans le corps mystique de Jésus. Jésus souffle l'Esprit Saint dans son corps, par son corps. Et on se prépare à ces fêtes de la nativité avec la liturgie. Et les grâces de Dieu correspondent à un cheminement, une élévation, une montée mystique. Il faut l'épouser. Et la montée mystique, c'est celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il accepte ses pauvretés. Et il choisit d'aimer ses pauvretés. Il a choisi la pauvreté. Il est allé dans le désert comme un misérable. Et puis, il a lutté pour la vérité. Jean-Baptiste, il a regardé que la vérité ne venait pas de nous, ne venait pas seulement si, mais qu'elle venait vers nous. Et pour ça, il faut être très pauvre. Si on se bute sur nos opinions, si on fait la fierté, si on dit « moi, je craquerai pas, je garderai mon opinion », et bien à ce moment-là, on est un riche. Et en se dépouillant de tout, en ne demandant qu'une seule chose, c'est tout ce que nous n'avons pas, en refusant de s'installer dans une religion, dans un avoir religieux, dans un pouvoir donné par la foi, par la sécurité d'une religion, d'une habitude, etc. Il faut se mettre dans l'état de Jean-Baptiste qui se dépouille de tout ça, qui sort de Jérusalem, qui rentre dans la purification, la pauvreté, et qui attend autre chose à partir de ce qu'il a reçu. Et sans renoncer à ce qu'il a reçu. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer à monter Saint Jean-Baptiste, c'est cette manifestation qu'on ne s'arrête jamais de monter, et qu'on ne peut jamais s'installer dans la vie spirituelle. Il faut aller toujours plus loin. Et pour aller plus loin, il faut réclamer le retour du Christ. Il faut réclamer Jésus. Il faut réclamer et comprendre que tout ce que nous avons compris, ce n'est rien du tout. Et que Jésus, c'est beaucoup plus que ce que nous avons reçu. On est très content d'avoir reçu la foi. Mais on comprend aussi que ce n'est pas la vérité de Dieu, n'est pas de la terre, elle n'est pas au niveau de notre intelligence d'âme. Elle est au niveau de l'intelligence et de la sagesse de l'air. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours nous dépasser pour attendre autre chose et vivre de l'incréé, de l'éternel, de la vérité. La vérité n'est pas sur cette terre toujours limitée. On ne cesse pas de s'approfondir et de monter. Nous avons une vie mystique, elle implique qu'il y ait cette élévation, je vous le rappelle. Il faut monter dans la vie. La grande montée mystique. La grande montée mystique, c'est à l'infini. Et pour ça, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas qu'il y ait encore notre petite fierté. Le type qui a sa petite fierté, c'est pas un pauvre. Et du coup, c'est fini. Tu progresses plus. Et si tu progresses plus, Jésus n'est plus là. Et donc, tout ce que tu avais reçu de Jésus jusqu'à maintenant, tu l'as perdu. L'amour ne s'arrêtera plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est la grandeur de Jean-Baptiste de faire comprendre que l'amour ne peut plus s'arrêter. Il y a un cri sur la croix qui a retenti sur toute la terre, un gémissement, celui qui s'arrache de son corps. Et l'amour de Jésus a cessé de retentir sur cette terre. Et du coup, ce gémissement et ce cri, il est porté par nous. Et c'est pour ça que l'amour ne s'arrêtera plus. L'amour, lui, ne s'arrêtera plus. Parce que nous avons reçu le vol de la colombe. Et quand le Christ a laissé son dernier cri sur la terre, nous avons reçu ce souffle et ce chant de la colombe pour que l'amour ne s'arrête plus. Ne s'arrête plus dans l'ordre de l'amour. Il faut ça pour ça, donc, une décision ferme de ne pas s'arrêter et de garder cette ferveur dans la soif. Et c'est ça que l'Église demande. Le rythme de l'Église jusqu'à Noël, c'est ça. Avoir une ferveur très grande dans la soif. Et donc, il faut reprendre l'horizon pour ceux qui l'avaient perdu, n'est-ce pas?